VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 11 avril 2019, en direct de Washington, Eric Manilakiza et Anne Albertson. D'abord, le sommaire.
En République démocratique du Congo, un député de l'UDPS demande une rupture avec la coalition autour de Kabila.
La coalition n'a pas de sens. Moi, je pense qu'il y a escroquerie, un point très. Depuis qu'on a commencé, cette coalition n'est qu'une escroquerie.
La présidentielle fixée au 4 juillet en Algérie. L'armée demande l'arrêt des manifestations.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir toujours sur la sellette. Les manifestants continuent d'exiger son départ. L'armée va faire une déclaration importante bientôt.
À la découverte des Navetanes au Sénégal, ces jeunes passionnés par le football.
C'est une pépinière, hein, parce que c'est de là-bas qu'on commence à tuer des joueurs dans le tas, des jeunes joueurs qu'on recrute pour les amener au niveau du championnat.
En Israël, Benjamin Netanyahou bien positionné pour former un nouveau gouvernement.
Ne manque pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco, mais pour l'instant, le journal.
En RDC, après la déroute de la majorité présidentielle aux élections des gouverneurs, un député de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, remet en cause le mariage de raison avec le FCC qui a tout raflé aux assemblées nationales, provinciales et au Sénat. Koku Mulongo qualifie les résultats d'escroquerie et veut que tout commence à la case départ.
La coalition n'a pas de sens. Moi, je pense qu'il y a escroquerie. Un point très. Depuis qu'on a commencé, cette coalition n'est qu'une escroquerie. Et je pense que c'est une sonnette d'alarme pour notre président de la République et tous ceux qui sont autour de lui pour comprendre que si nous continuons comme ça, nous allons nous faire escroquer à toute opération institutionnelle.
Qu'est-ce qu'ils font ?
C'est remettre encore les choses en place. Ça signifie tout recommencer à zéro et savoir exactement qu'est-ce que l'on doit décider pour continuer dans l'avenir et où encore recommencer sur tout ce que nous avons eu à faire. Parce que dans un premier temps, le Sénat, c'est un fruit d'une tricherie que tout le monde sait. Et d'ailleurs, les dossiers sont encore au niveau de la justice. Et si nous allons du côté des élections au niveau provincial et même national, c'est pas normal qu'un président de la République sorte gagnant avec un minimum des députés nationaux qui sont moins nombreux que les perdants. C'est clair, il n'y a rien à commencer à expliquer. Il ne faut pas aller à l'université pour comprendre ça. Si ça ne dépendait que de moi, Koku Mulongo, je reprendrais tout à zéro.
Le député Koku Mulongo, propos recueillis par Narval Mabila, notre correspondant à Lubumbashi. Narval qui nous signale par ailleurs que le président Félix Tshisekedi est attendu aujourd'hui à Lubumbashi. Il veut s'enquérir de la situation sécuritaire et va tenir sur place un conseil de défense. Hier, les militants de l'UDPS ont manifesté dans la ville après l'échec de leur candidat, donc Koku Mulongo, au poste de gouverneur.
Au Soudan, la contestation populaire entrait dans sa 6e journée consécutive. Des milliers de manifestants étaient rassemblés dans la nuit de mercredi à jeudi devant le QG de l'armée à Khartoum pour la 5e nuit consécutive. Ils veulent que le président Omar el-Béchir quitte le pouvoir. De son côté, le parti du Congrès national au pouvoir a appelé l'ensemble de ses membres à un rassemblement de soutien au président el-Béchir ce jeudi à Khartoum. Mais ce mercredi soir, ce rassemblement a été reporté à une date non précisée. Selon la radio et la télévision d'État, l'armée soudanaise va faire une déclaration importante bientôt, mais ces médias n'ont pas donné davantage de détails et diffusé des chants patriotiques.
En Algérie, l'élection présidentielle est fixée au 4 juillet, conformément à un décret signé par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Dans le même temps, l'armée a mis en garde les manifestants contre la poursuite de leur mouvement de contestation du régime. Morgan Guiriec.
L'Algérie est le théâtre depuis le 22 février de manifestations monstres qui réclamaient dans un premier temps le départ du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, qui a fini par démissionner le 2 avril. Les contestataires réclament désormais la fin du système dans son ensemble. Abdelkader Ben Salah, chef de l'État, a procédé à la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral à l'élection présidentielle fixée au 4 juillet 2019, a indiqué la présidence. Monsieur Ben Salah, qui ne peut être candidat à cette élection en vertu de la Constitution, avait promis auparavant un scrutin présidentiel transparent. En dépit de cet engagement, le président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement depuis 17 ans, assimilé au long règne d'Abdelaziz Bouteflika, reste rejeté par la rue et faisait faisait face, mercredi, à de nouvelles manifestations ainsi qu'à un appel à une grève nationale. Tout en s'engageant lui aussi à ce que l'armée veille à la transparence du processus de transition, le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a de son côté haussé le ton. Il a écarté catégoriquement le principe d'un vide constitutionnel dans une apparente fin de non-recevoir aux revendications d'un départ du système et la mise sur pied d'institutions ad hoc.
Morgan Guerriec. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé un cessez-le-feu en Libye pour éviter une bataille sanglante dans la capitale. Les combats se sont intensifiés près de Tripoli, cible depuis jeudi dernier d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays. Le Conseil de sécurité qui s'était réuni à huis clos à l'invitation de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne pour discuter d'un projet de résolution demandant un cessez-le-feu devrait adopter prochainement un texte poussant à l'arrêt des combats selon des diplomates.
Au Burkina Faso, un gendarme a été tué mercredi soir dans une attaque contre un camp de réfugiés à Goudébou, dans le nord du pays. Selon une autre source sécuritaire, les assaillants ont également réussi à emporter des engins sans plus de précision. L'état-major français a annoncé hier que les armées françaises et maliennes ont mis hors de combat la semaine dernière une trentaine de djihadistes, saisi des armes et démantelé un camp d'entraînement au cours d'une vaste opération près de la frontière avec le Burkina Faso, visant notamment le groupe Ansarul Islam.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Benjamin Netanyahou est sur la voie d'un cinquième mandat de Premier ministre en Israël. Avec sa victoire législative, il est le mieux placé pour former le prochain gouvernement. Eki Abadou.
Après le dépouillement de la quasi-totalité des votes aux élections de mardi, M. Netanyahou et son parti sont crédités d'autant de sièges que la liste bleu-blanc de Benny Gantz par les projections des médias. Mais M. Netanyahou devrait pouvoir réunir avec d'autres formations de droite une majorité absolue de 65 sièges sur 120 quand son rival en paraît très éloigné. Dans une telle configuration, le président israélien Reuven Rivlin devrait se tourner vers M. Netanyahou pour lui demander de former un gouvernement. En attendant la fin du dépouillement des bulletins des soldats ou des personnes hospitalisées d'ici à jeudi après-midi, sa victoire ne laisse plus de doute et les messages de félicitations sont arrivés d'Inde, d'Italie, d'Autriche et de la Maison-Blanche. Une victoire qui inquiète les dirigeants palestiniens, le premier ministre israélien ayant annoncé pendant la campagne être prêt à annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie. Son principal adversaire et novice en politique, M. Gantz, qui avait revendiqué une réussite historique pour une formation qui n'existait pas il y a moins de 6 mois, a affirmé mercredi soir respecter la décision du peuple.
Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a demandé hier à l'ONU de reconnaître l'opposant Juan Guaido comme dirigeant du Venezuela. Il a aussitôt réclamé le départ de Nicolas Maduro, qui a annoncé la conclusion d'un accord avec la Croix-Rouge. Cet accord était très attendu. Le Venezuela souffre depuis longtemps de pénuries de produits alimentaires et de médicaments, des problèmes attribués par M. Maduro aux sanctions économiques américaines.
L'Assemblée nationale cubaine a mis en œuvre ce mercredi la nouvelle loi fondamentale du pays au moment où l'île caribienne subit d'intenses pressions de la part des États-Unis. Les précisions de Michel Joseph.
Aujourd'hui, notre constitution est proclamée. Notre devoir est uniquement envers elle et envers Cuba, a tuté le président cubain Miguel Díaz-Canel. La nouvelle constitution est fille de son temps et reflète la diversité de la société, a déclaré de son côté l'ancien président Raúl Castro, chef du Parti communiste cubain. Depuis 2008, les Cubains peuvent travailler pour eux-mêmes ou dans des entreprises privées. Et la nouvelle constitution reconnaît une place limitée à l'économie de marché. Toutefois, elle réaffirme le rôle central du Parti communiste et la nature irrévocable du socialisme à Cuba. Pendant ce temps, les relations continuent de se dégrader avec le grand voisin, les États-Unis. Le président Donald Trump a tourné la page du dégel amorcé par son prédécesseur Barack Obama. Le chef de l'exécutif américain qualifie Cuba, le Venezuela et le Nicaragua de troïka de la tyrannie. La nouvelle constitution cubaine ne fait rien de plus que perpétuer la dictature du parti unique, avait déclaré le secrétaire d'État Mike Pompeo après le référendum de février sur la nouvelle loi fondamentale.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que Pyongyang saurait contrecarrer les effets des sanctions internationales. Selon lui, le développement de l'économie socialiste porterait un coup décisif aux forces hostiles. Il s'agit de ses premiers commentaires officiels après l'échec du sommet de Hanoï sur la dénucléarisation en février dernier avec le président Donald Trump. Kim Jong-un exigeait la levée immédiate des sanctions américaines. Une rencontre est prévue aujourd'hui à Washington entre le président Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Nanit Sylvani Talani qui vous présente la Minute Éco.
Le Zimbabwe veut mobiliser 613 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds internationaux pour faire face aux conséquences du cyclone Idai et à la sécheresse. L'agence Reuters publie que près de 300 millions de dollars couvriront les importations alimentaires du pays et soulageront les Zimbabwéens en situation de besoin alimentaire, dont le nombre est estimé à près du tiers de la population selon l'ONU. Le reste des fonds servira à financer d'autres besoins tels que les abris d'urgence, les télécommunications et la logistique. Le FMI a baissé ses prévisions concernant la croissance économique de l'Afrique du Sud à 1,2% cette année, soulignant que les incertitudes politiques restaient un obstacle à l'activité. Les goulets d'étranglement structurel continueront de peser sur l'investissement et la productivité, tandis que la faiblesse des prix à l'exportation des métaux constitue un risque en plus. Le FMI évoque aussi le manque de main-d'œuvre qualifiée et la concurrence régnant dans les principales industries. Pour terminer, la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a spectaculairement chuté de 534 000 barils par jour le mois dernier à cause de la baisse en Arabie Saoudite et au Venezuela, a indiqué hier le cartel dans son rapport mensuel. Plongé dans le désordre politique et affecté par des pannes d'électricité à répétition, le Venezuela a pompé 289 000 barils par jour de brut en moins le mois dernier. La production de l'OPEP a aussi été limitée par la très forte baisse enregistrée en Arabie Saoudite avec seulement 324 000 barils par jour.
Et sans transition, nous passons directement à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence avec l'Europa League ce soir, comptant pour les quarts de finale aller.
Oui, Arsenal reçoit le Napoli d'Ancelotti pendant que Chelsea se déplace chez les invités surprises, les Tchèques du Slavia Prague pour les Gunners comme pour les Napolitains. Distancés dans leur championnat respectif, l'Europa League est le dernier moyen d'étoffer leur palmarès cette saison après leur élimination en Coupe nationale. Avec Unai Emery, les Londoniens, déjà demi-finalistes l'année dernière, disposent sur leur banc du coach spécialiste de l'épreuve. Le Basque a empilé trois Europa League successives de 2014 à 2016 lorsqu'il était sur le banc du FC Séville. Pour Naples et Carlo Ancelotti, la C3 est surtout un moyen d'égayer une fin de saison sans enjeu. À suivre aussi Villarreal, Valence et Benfica, Francfort.
Et en Ligue des Champions, Yacouba, Ronaldo a offert un bon nul à la Juve, c'était hier.
Et oui, un nouveau but de Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus d'arracher le nul 1-1 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. CR7 a encore trouvé le chemin des filets en C1 pour son retour sur les terrains 15 jours après s'être blessé en sélection portugaise. Dans l'autre rencontre de la soirée, Lionel Messi, meilleur buteur de la Ligue des Champions 2018-2019, n'a pas marqué. Luis Suarez non plus, mais le Barça a fait le travail profitant d'un but contre son camp du défenseur de Man U, Lucky Shaw, suffisant pour aborder le match retour avec une certaine sérénité mardi prochain au Camp Nou.
Football féminin, on connaît les affiches du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques.
Oui, cette deuxième étape marquera l'entrée en lice de 7 pays exemptés du tour précédent, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore le Zimbabwe. On aura droit, entre autres, à un Ghana-Gabon avec les Panthères, auteurs d'un exploit retentissant mardi devant le Congo. Ailleurs, l'Algérie sera face au Nigeria et la Côte d'Ivoire jouera le Mali. Les matchs de ce deuxième tour seront joués en aller-retour du 23 août au 3 septembre. Puis un troisième tour sera disputé. À l'issue de cette dernière étape, eh bien, 4 pays obtiendront leur ticket pour la phase finale du tournoi de football des Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Et on termine avec la NBA. Les Lakers ont limogé leur préparateur physique.
Oui, les Los Angeles Lakers ont mis fin au contrat de Marco Nunes, leur préparateur physique depuis 2016. Nunes paye ainsi le prix d'une saison 2018-2019 décevante et émaillé de nombreuses plusieurs blessures touchant notamment LeBron James, Rayon Rondo et Lonzo Ball.
C'était l'espoir de Yakuba Ouédraogo. À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manilakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, le FCC, Front commun pour le Congo, formé autour de l'ancien président Joseph Kabila, a remporté une large majorité aux élections de gouverneur. Les résultats de 20 provinces déjà connues donne le FCC gagnant dans 18 provinces. La mouvance présidentielle reste aussi très minorisée aux assemblées nationales, provinciales et au Sénat. Cette vérité des urnes risque de ne pas faciliter la tâche du président Félix Tshisekedi de mettre en application son agenda politique. Pour en parler, Eddy Sango a joint l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoï.
C'est sans surprise le résultat auquel on assiste là. Aujourd'hui, il devient clair que c'est le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui contrôle toutes les provinces de la République et que s'y met un peu en contradiction le discours du président Félix Tshisekedi qui tient à déboulonner le système qu'il a trouvé alors que du point de vue du pouvoir exécutif, tout lui échappe.
Maintenant qu'on a la majorité de gouverneurs venus du FCC, quelle pourra être la marge de manœuvre pour le président de gouverner et d'appliquer sa politique, de déboulonner les systèmes dictatoriaux comme il l'a dit lui-même?
S'il veut déboulonner, il doit s'assurer de l'appui de ceux qui lui ont appliqué ou institué ces systèmes, ce qui serait, à mon sens, une niaiserie politique. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un avec qui vous avez un deal politique que vous allez déboulonner le système qui est en place, alors que vous, du point de vue de l'exécutif, vous n'avez vraiment pas de levier de commande pour pouvoir déboulonner. Regardez, il y a aujourd'hui la majorité des gouverneurs qu'on vient de dégager appartient au FCC. À l'Assemblée nationale, là où on vote les lois, la majorité appartient au FCC, au Sénat, c'est la même chose. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus prévisible que s'il faut que le président Félix dirige le pays, il doit accepter de se saborder dans cette coalition que Joseph Kabila avait pourtant annoncée. Il faut absolument le faire dans la cohésion, dans la discussion, et le faire avec la participation. Mais faire le contraire, ça serait difficile parce qu'il n'en a vraiment pas les moyens.
Ces résultats tombent au lendemain, quelques jours après la déclaration du président Félix Tshisekedi, qui a d'ailleurs suscité des réactions de la part du FCC. Maintenant, aujourd'hui, avec ces résultats, dans quel état est cette entente?
Je conseillerais qu'à ce stade, le président Félix puisse adopter un profil bas, un profil d'un homme réaliste qui devra tenir compte des rapports de force. Disons que la formation de la coalition n'empêche pas que les gens aient des différences, des convictions, que les gens aient des différences, des idéologies, que les gens aient des actions et des approches qui soient tout à fait spécifiques. Donc, autrement dit, l'unité dont il s'agit ici dans la coalition, ça doit être l'unité dans la diversité. Ça doit être une unité basée sur le principe, sur les objectifs communs à atteindre à court, moyen et à moyen et à long terme. Donc, c'est pas forcément le fait d'abdiquer aux convictions personnelles. Le président Félix Tshisekedi s'est battu 37 ans dans le cadre de son parti l'UDPS. Il manque pas d'idéologie et de convictions personnelles. Mais ce dont on parle ici, c'est de pouvoir transcender les différences pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et à ce niveau-là, il y a un effort à fournir parce qu'il s'agit de sauver la République.
Marcel Ngoï, éditeur du quotidien La Prospérité.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le LICOM, l'Organisation burundaise de lutte contre la corruption et les malversations économiques, s'insurge contre l'interdiction par les autorités de Bujumbura des émissions de la Voix de l'Amérique et de la BBC. Ces deux médias émettaient localement, en langue locale, le Kirundi. Timothée Donangmai a joint le président de l'ULICOM, Gabriel Rufiri.
Notre cher Patrick, que nous aimons beaucoup, s'est engagé depuis 2015 sur une voie qui, aux yeux de l'ORICOM, emboîte le pas des pays qui ont opté pour la restriction du droit à l'information. Et par voie de conséquence, l'ORICOM en aucun cas ne pouvait accepter cela. C'est pour cette raison que nous avons publié ce communiqué. D'abord, en s'appuyant sur la Convention africaine contre la corruption, qui, dans son article 12, montre clairement que la lutte contre la corruption et d'autres infractions connexes ne peuvent en aucun cas être une réalité si les médias indépendants ne sont pas impliqués. De même que la Convention des Nations Unies contre la corruption, à son article 10, montre que clairement la corruption ne peut pas être combattue quand les médias indépendants ne sont pas en train d'opérer. C'est la raison pour laquelle donc l'ORICOM a publié son communiqué en interpellant les organes onusiens, les partenaires du Burundi et bien d'autres qui aiment le Burundi parce que la voie que le gouvernement burundais est en train de prendre est une voie pour nous suicidaire.
Quelle est la situation des médias indépendants aujourd'hui au Burundi?
La situation des médias indépendants au Burundi, c'est presque zéro radio, zéro télévision. Si je peux le dire ainsi, c'est comme ça que ça fonctionne. Certes, il y a la RFI qui est écoutée là-bas, mais vous le savez, le taux de scolarité, surtout les intellectuels au Burundi qui comprennent le français, c'est pas vraiment beaucoup. Donc, à retirer l'agrément de la Voix d'Amérique et de la BBC, c'est suite justement à cette volonté de priver l'information à la masse, surtout que ces deux médiums indépendants internationaux diffusent à rang national.
Gabriel Lufiri, président de l'ORICOM, une organisation burundaise.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, Washington Forum braque les projecteurs sur la révolution numérique en Afrique. Avec la forte progression de la téléphonie mobile, le déploiement du haut débit et l'émergence de start-up, le continent innove à grande vitesse malgré de nombreux obstacles. Quelle est la place de l'Afrique dans le monde de la nouvelle technologie? Quels sont les enjeux? Le digital peut-il vraiment apporter des solutions concrètes au quotidien? L'Afrique pourrait-elle servir de modèle au reste du monde? Quelles sont les limites à ce miracle numérique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h, en temps universel.
Destination dans le pays de la Teranga. Beaucoup de jeunes Africains grandissent en regardant les joueurs de football qui ont réussi à percer dans les ligues internationales et rêvent eux aussi de devenir des stars de football. Mais souvent, ils n'y arrivent pas faute d'opportunités. Pour permettre aux jeunes qui ont une passion pour le football au Sénégal de s'adonner à leur sport favori, les navetanes ont été créées. Ce sont des ligues de football informelles qui donnent aux jeunes passionnés du ballon rond l'occasion de jouer pendant les vacances. Un reportage de Global Africa Press pour VOA Afrique.
Navetan est un mot du Wolof qui signifie championnat d'hiver. L'ONCAV, organisme national de coordination des activités de vacances, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, organise des tournois de football dans toutes les villes et tous les villages du pays. Les jeunes footballeurs sont réunis au sein de clubs amateurs appelés Associations Sportives Culturelles, ASC en sigle. Ces championnats locaux servent d'opportunité pour les jeunes de démontrer leurs compétences pour les recruteurs du championnat professionnel.
C'est une pépinière, hein, parce que c'est de là-bas qu'on commence à tuer des joueurs dans le tas, des jeunes joueurs qu'on recrute pour les amener au niveau du championnat. Parce que même les dirigeants du championnat viennent recruter dans les navetanes. Donc, navetanes, c'est une pépinière.
Les navetanes sont très populaires au Sénégal, avec plus de 5600 ASC à travers le pays et pas moins de 500 à Dakar. Malgré cette popularité, davantage doit être fait pour avancer le sport.
Au premier mois, les gens ignorent un phénomène. Il s'agit de la petite catégorie. Je pense que, à ma modeste personne, que si la petite catégorie n'est pas prise en compte, nous rencontrerons toujours des difficultés dans le football sénégalais. Donc il faudrait que la fédération puisse investir davantage dans la petite catégorie.
Pour les jeunes qui jouent dans les Navetanes, leur espoir est d'être repérés par les recruteurs du championnat national.
Bon, en tant que joueur Navetan, on l'espère tous, vraiment. Nous l'espérons, mais bon. Après, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Des fois, tu suis les études, tu suis le football, pour ne pas suivre deux lièvres à la fois. Mais bon, des fois, il y en a qui finissent par signer pro, il y en a qui finissent par signer un contrat professionnel au niveau des entreprises.
Depuis 1950, les Navetanes sont une activité importante pour les jeunes du Sénégal. Non seulement ces ligues permettent aux jeunes d'avoir une activité pour les vacances d'hiver, mais c'est aussi une occasion de développer les compétences pour ceux qui veulent poursuivre une carrière professionnelle.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Rendons-nous à présent au Cameroun, précisément à qui est aussi à la frontière avec la Guinée équatoriale. Cette ville paye le plus lourd tribut de la récente fermeture de la frontière par les autorités équato-guinéennes. Notre correspondant Emmanuel Juntap s'est rendu sur place pour mesurer l'impact de cette mesure touchant les commerçants.
Suivez. À la frontière terrestre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, les imposants immeubles aux toitures rouges sur le territoire équato-guinéen frappent l'œil du visiteur. Une architecture moderne que les Camerounais admirent à un jet de pierre, à partir du poste frontalier de Kiyoussi. Cependant, les habitants du côté camerounais se plaignent de l'absence de circulation des biens et personnes entre les deux pays. Marie-Madeleine Efouba est commerçante à Kiyoussi depuis 8 ans.
Nos activités allaient quand même reprendre, mais finalement, cela s'est éteint. Nous ne voyons plus rien. Mon comptoir est complètement ouvert et ça ne fait que ralentir vraiment mes activités.
Samedi, jour du marché à Kiyoussi. Plus de 5 heures après l'ouverture du marché, des sacs d'avocats, de tomates, de gingembre ou encore de basilic attendent désespérément des preneurs. Assise derrière un comptoir de produits de première nécessité, Nafissa Tou dit vivre le pire moment de sa vie dans cette localité où elle réside et pratique le commerce depuis 4 ans.
Avant que je suis arrivé ici, je vendais, mais maintenant ce n'est plus comme avant.
Ibrahim Tapon est un vendeur de tomates installé à Kiyoussi depuis 2008. À une période où la frontière terrestre Cameroun-Guinée équatoriale était ouverte en permanence. Aujourd'hui, ces activités sont en chute libre.
On est en train de passer vraiment une étape difficile sur les 4 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'à chaque moment, on ferme la frontière, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Parfois, même il y a les chutes, surtout ici au niveau du vieux frein. Il y a des fois que les gens, peut-être, quand ils s'apprêtent à amener les marchandises, le grand matin, on nous annonce qu'on a fermé la frontière. Et dans ce moment, les marchandises pourrissent. On est en train de traverser une étape difficile à Kiyoussi. Le marché ne tourne plus. Et on est endetté partout. Beaucoup de nos frères sont en prison parce que ils ont beaucoup de dettes.
En fin janvier dernier, les autorités camerounaises et les commerçants de Kiyoussi avaient accueilli avec joie la réouverture de la frontière terrestre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale après un an de fermeture. Mais cette joie n'a duré que quelques semaines. Les autorités administratives de la ville de Kiyoussi encouragent désormais les populations à diversifier l'économie locale pour ne plus dépendre du flux des échanges avec la Guinée équatoriale. Ce à quoi s'attelle Aristide Ngassa Ambinde. Il a mis sur pied un projet agro-pastoral et piscicole avec pour objectif de vendre désormais sur le marché local.
La production agro-pastorale a une plus-value et peut se vendre pendant que les frontières sont fermées. Et d'ailleurs, le plus grand marché d'Afrique centrale, c'est le Cameroun, parce que nous avons la population. 30 millions de populations ne peuvent pas être comparées à 800 000 personnes.
Selon les autorités camerounaises, les recettes douanières au poste de Kiyoussi sont passées de 70 à 40 millions de francs CFA par mois après la fermeture de la frontière terrestre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale en 2018. Emmanuel Juntap, de retour de Kiyoussi pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nashwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et à Jean-Roger Bion, Eric Manilakiza à Washington. Vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.